La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
C'est la deuxième partie, donc on est toujours dans la midinale, c'est la midinale 5.13 du 13 janvier. Et du coup, c'est moi qui vais enchaîner et je vais vous parler d'Haïti. Alors, bon, je suis pas la seule à parler d'Haïti, là, en ce moment. Donc, on est le 13 janvier. Hier, c'était le 12. Et il y a 10 ans, un séisme hallucinant ravageait Haïti, la capitale Port-au-Prince, et puis toute la bande sud-ouest d'Haïti. Le bilan, il est hallucinant, c'est presque 300 000 morts. Et du coup, j'ai pas mal regardé hier, j'ai pas mal cherché, je voulais retrouver des images d'archives ou des archives de la radio. Du coup, je me suis tapé les journaux de les 20 heures du 13 et du 14 janvier 2010. Et puis après 10 minutes de conneries de Kouchner, qui expliquait que l'aide internationale allait arriver et qu'on était très compatissants avec Haïti et les Haïtiens, les Haïtiennes. Je me suis juste souvenu que si les images des morts là-bas, si les images des corps ensevelis, si les images des décombres, des cris et des larmes avaient changé quoi que ce soit, on le saurait, donc j'ai laissé tomber. Et puis, donc il n'y aura pas d'images d'archives, il n'y aura rien de tout ça. Et en fait, j'ai juste envie de parler là, pas que aujourd'hui, mais sur, à mon avis, sur plusieurs semaines de l'histoire d'Haïti. Juste pour faire court, hein, c'est le premier pays qui est né d'une révolte d'esclaves réussie. C'est peut-être pour ça qu'ils le payent aussi cher. Que c'est un morceau d'île partagé avec la République dominicaine. Un morceau d'île dont on dit toujours que c'est la malchance qui s'abat sur cette île, que Haïti serait maudite, que quand même c'est déchaînement de la nature qui s'abat sur Haïti, c'est vraiment pas de bol, quoi. Alors qu'en réalité, c'est juste que une catastrophe qui s'abat sur un peuple qu'on maintient dans la misère, cette catastrophe, elle est forcément démultipliée. Peu de temps après ce séisme, mais déjà avant, hein, les ONG faisaient leur beurre sur Haïti. Quelques mois après le séisme, on appelait Haïti la République des ONG. C'est toujours le cas. Si ça avait changé quoi que ce soit, on le saurait. Si ça avait changé quoi que ce soit, en tout cas, le peuple haïtien ne serait pas en train de se soulever depuis presque 8 mois maintenant, sans qu'on en entende jamais parler aux informations, jamais, 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 nulle part. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais aller vers ce que je connaissais, c'est-à-dire la littérature. Et il y a quelque chose d'assez hallucinant. Haïti, c'est vraiment un tout petit morceau d'île. C'est 10 millions d'habitants. Et ça fait 4 générations qu'Haïti produit, donne au monde des textes hallucinants, aussi bien en créole qu'en français, qu'en anglais, aussi bien en théâtre qu'en poésie, qu'en roman, qu'en essai. Et en fait, moi, je voulais juste mettre l'accent sur, ou donner à voir et à entendre quelques auteurs. Et il y a vachement d'émotion parce que, en fait, pour moi, le séisme en Haïti, quand je me suis réveillée le 13 janvier 2010, je me suis réveillée par un coup de téléphone de parents d'une amie qui était complètement terrorisée. Ça faisait une semaine qu'elle était en Haïti. Pas de faux suspense, elle va très bien. Mais on a passé 2 jours à essayer d'avoir des nouvelles, à appeler partout où on pouvait. Et puis finalement, elle avait été... Elle allait très bien. Elle l'a vécu, elle était à Port-au-Prince, elle a vécu le séisme dans son corps. Elle y est restée ensuite pendant 48 heures, et puis elle a été évacuée. Et puis elle s'est retrouvée évacuée à la Martinique dans un hôtel de luxe. Et puis ça a duré 3 jours là-bas, et puis elle est rentrée en France et elle comprenait plus rien. Et ce qu'elle racontait, c'était le début du chaos. Et elle bossait pour une ONG. Elle est retournée en Haïti ensuite pour rebosser pour des ONG. Et puis, sans surprise, quelques années après, elle a définitivement quitté ce monde-là parce qu'il la débectait trop. Parce que les mensonges sur les millions d'euros qui devaient arriver en Haïti et qui auraient été détournés, c'est... En réalité, ces centaines de millions d'euros, ils sont jamais arrivés en Haïti parce que, on ne l'a pas dit, mais c'était pour effacer la dette haïtienne. Donc en fait, ça n'a jamais été pour les aider. Hein. Bref, c'est vachement émouvant, tout ça. Donc pas d'image d'archives et pas de radio d'archives. Juste Yannick Lahance, dans l'épilogue de son livre « Guillaume et Nathalie », décrit le séisme. Le 12 janvier 2010, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement, Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ces dieux dont on dit qu'il se repaisse de chair et de sang. Chevauché sauvagement, avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Et en fait, ce que je vais essayer de faire là sur plusieurs midinales, c'est de donner à entendre Haïti sur les 10 années passées. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur le séisme. Yannick Lahance a écrit un très beau texte qui s'appelle « Faille ». Daniela Ferrière, lui, a écrit un texte qui s'appelle « Tout bouge autour de moi ». Il s'avère aussi qu'il y avait beaucoup d'écrivains haïtiens qui étaient à Port-au-Prince. À ce moment-là, il y a une grande diaspora. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent à Montréal, qui vivent en France, qui vivent à Miami, qui vivent un peu partout. Et ils s'étaient tous regroupés là-bas, puisque pour la première fois, du 15 au 19 janvier 2010, devait avoir lieu le premier étonnant voyageur à Haïti. Et du coup, ça laisse beaucoup de témoignages par des gens qui font la littérature du séisme. Et puis, donc, il y a ces textes-là. Et il y a aussi... 10 ans de textes sur Haïti, l'état d'Haïti aujourd'hui. Comment on vit à Haïti, comment on grandit, comment on se reconstruit. Et c'est un peu tout ça que moi je voudrais lire. Et il y a notamment un auteur haïtien célèbre qui mâche pas ses mots, qui s'appelle Lionel Trouillot, qui lui était à Haïti parce qu'il vit là-bas et qu'il n'en est pas parti, et à qui on a demandé, tout de suite après le séisme, s'il était d'accord pour écrire des chroniques, pour décrire comment c'était Haïti, ce qui se passait, quoi. Et il était d'accord, il a dit « Ouais, on peut essayer. » Et donc le séisme a lieu le 12 janvier et il écrit sa première chronique le 19 janvier. Donc ça s'appelle « Les chroniques de l'après ». Elles ont été écrites pour le magazine Le Point et elles sont accessibles librement. Je vais vous lire la première. Donc c'est le mardi 19 janvier. Ça s'appelle « Vivre avec la mort ». Port-au-Prince, mardi 19 janvier, 9h. Dans certains quartiers, la capitale a tout d'une ville déserte. Peu de voitures, de passants, des ruines. Et quelques braves qui essayent de sortir des objets, des souvenirs, sous les décombres. Ce n'est plus vraiment des vivants que l'on cherche. Sur les ruines de la maison de mon amie Georgia Nicolas, coordinatrice de l'atelier jeudi soir, nous constatons avec un ingénieur et quelques ouvriers l'ampleur du désastre. Qu'est-ce qu'un désastre, sinon la somme de milliers de petits désastres? Chaque petit désastre est en soi immense. Des vies, des carrières. 7 jours après la catastrophe, l'après commence. Je demande à un ouvrier des nouvelles de Josué, l'homme à tout bien faire du quartier. Il est mort. Il est quelque part sous les ruines, quelques maisons plus loin. Un coup d'œil vers les ruines de la maison indiquée. Exit Josué. Un jeune Doberman nous a rejoints. Il semble nous avoir choisis comme parents adoptifs. La maison de ses maîtres a sans doute été détruite. La veille, sa famille a enterré notre amie Valérie, une ancienne membre de l'atelier qui dirigeait une école de théâtre. Cela s'est passé dans un autre quartier, au bas de la ville. Un immeuble a traversé la rue comme un immense projectile pour frapper de plein fouet une école, une église et une bibliothèque. On ne peut pas pleurer tant de morts en même temps. Cela en devient presque ridicule. On ne peut pas choisir dans le tas. J'ai rencontré aussi mon ami Danis, le graphiste du journal Le Matin. Il a perdu sa femme et ses deux enfants. Le directeur du journal n'est pas en reste. Sa femme et ses trois enfants, qui étaient venus des États-Unis pour passer les fêtes avec lui, font partie des victimes. Ce foutu tremblement de terre n'aura laissé personne sans son lot de morts. Personne sans son lot de morts. C'est l'une des vérités du début de l'après. Je descends vers Radio Kiskeya, qui a recommencé à fonctionner depuis la veille. Je vais aux nouvelles. La distribution de l'aide qui pose toujours problème par manque de coordination. Les dernières tentatives et espérances des sauveteurs pour sortir les derniers survivants des décombres. Les petits vols des voyous s'infiltrant la nuit sous les ruines pour piquer un ordinateur, un gadget ou du cash. Les réactions de la police qui agit dans certains quartiers exercent des contrôles, souvent sans nuance. Vigilance, mais aussi exaction. T'as trouvé ça où ? En attendant, on t'arrête. Tu t'expliqueras plus tard. Quelques viols, des cas de pillage. Carrefour, Piétonville, le boulevard Jean-Jacques de Salines. Une chose semble certaine. Ni la police, ni la population n'épargneront les bandits. Dans de nombreux quartiers, les jeunes ont monté des comités. La sécurité de la zone fait partie des priorités. Pas malin celui qui se fera prendre. Les gens ont besoin d'abri, d'eau potable, de nourriture. Ils n'auront ni le temps, ni l'envie de jouer aux démocrates avec les voleurs, les violeurs et les assassins. Beaucoup de questions. Les questions sur les intentions des uns et des autres donneurs d'aide. Sur celles des États-Unis en particulier, qui contrôlent désormais l'aéroport et annoncent l'envoi de troupes, de nouvelles troupes. Le gouvernement sort lentement de son mutisme. Mais ce n'est pas encore suffisant, ni suffisamment clair pour rassurer vraiment. Je rentre. Port-au-Prince semble s'être vidé. Ce qu'il en reste, dehors dans les rues. Les uns parce qu'ils n'ont plus de maison. Les autres parce qu'ils ne veulent pas encore rentrer chez eux. Je les comprends. J'ai développé une peur bleue des douches et des salles de bain. Parmi les rumeurs, des riches, il en est même dans le malheur, auraient affrété des avions privés. Pour eux aussi se pose la question, sans doute différemment. Comment vivre après la mort? Donc ça, c'était sa première chronique du 19 janvier. Et puis, je vais vous lire la dernière, qui date du 23 mars 2010, parce qu'il le dit lui-même, c'est ça n'a plus de sens, en fait. Et on va voir qu'entre cette première chronique et la dernière, Trouillot, il pose déjà les questions essentielles qui continuera de poser... Enfin, et qui continue de poser depuis 10 ans. Comment ça s'organise la solidarité? Pourquoi on laisse les Haïtiens crever? Et qu'est-ce que les porteurs d'aide viennent chercher réellement, en fait? Donc la dernière, donc mardi 23 mars 2010, changer réellement l'après. Je mets fin aujourd'hui à ma chronique de l'après. Non qu'il s'agisse vraiment d'aller vers autre chose. Tout semble, et pour longtemps, devoir être marqué par le séisme du 12 janvier. C'est justement parce que l'après risque de devenir, non pas les jours qui suivent, l'horreur et mène à autre chose, mais au contraire, une triste permanence, un non-temps qui condamne l'histoire au surplace, qu'on ne peut plus enlever la chronique. Après le séisme, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. On connaît les vérités du moment dans ce qu'elles ont de pire, les urgences, le désordre dû au laxisme des États, qui laissent faire, et au pouvoir des autres, les porteurs d'aide, qui font ce qu'ils veulent. L'installation des intérêts privés ou particuliers dans la reconstruction, l'incapacité de profiter du pire pour penser la reconstruction, la refondation, dans la logique républicaine d'une société plus juste que celle d'hier. On les connaît aussi dans ce qu'elles ont de meilleur, les tentatives d'organiser les discours revendicatifs, les gestes spontanés de solidarité, l'effort de structuration d'instances locales pour apporter des réponses aux besoins immédiats et exprimer la vision de l'avenir. La permanence d'un discours de mise en garde contre toute tentative de reconstruire le pays d'avant, les quelques actions et initiatives à vertu structurante qui se mettent en place et constitueront, en réussissant, la preuve que l'on peut, que l'on doit faire mieux. C'est cela la réalité d'aujourd'hui. Le combat inégal entre tout ce qui bloque et tout ce qui veut bouger dans le bon sens. Quelques jours après le séisme, j'ai laissé Haïti pour une mission de 2 jours en France. Le jour du départ, angoisse, chaos. Des heures à attendre dans un bus un avion militaire qui n'arrivait pas. Manifestation d'inquiétude et d'agacement. Et la voix sereine d'un homme disant « Il y en a qui ont tenu 8 jours sous les décombres et s'en sont sortis. Arrêtez donc de pleurnicher. » Sa phrase avait ramené le calme. Je pense aujourd'hui à cette phrase, elle me fait peur. Pour les survivants que nous sommes, nous voilà debout après le pire, le 12 janvier. Et nous pouvons dire que rien depuis ne nous effraie. Mais pour le pays, le pire est de ne pas sortir du pire. Le pire, ne pas changer ce qui mérite d'être changé. Ne pas créer plus de justice, de bien-être et d'équité. Et perdre ce qui fait ses fondements humains. Solidarité, principe humaniste de sa culture. En ce temps de l'après, que ceux qui veulent aider viennent au service des actions allant dans le sens du changement réel. Et voilà. La semaine dernière, Lionel Trouillot donnait était interviewé pour France Inter pour Interception. Ils sont allés le voir chez lui, donc à Port-au-Prince. Et il commentait pas tellement le séisme, mais ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est-à-dire 8 mois de soulèvement du peuple haïtien qui se fait massacrer par les autorités, qui se fait tirer dessus, tabasser. Et avec ce constat assez amer que ce qu'il appelait de ses voeux du changement réel n'est absolument pas arrivé. Bien au contraire. La présence des ONG, des militaires américains, n'aura fait que renforcer un pouvoir déjà corrompu, déjà violent, et que rien n'a changé, en fait. Ça s'est même empiré. Du coup, ça, c'était le début. Oh yeah. Et en fait, la semaine prochaine, je lirai plutôt des textes de Yannick Lahance. Une autre fois, des textes de Dany Laferrière, qui sont sur un ton beaucoup plus gai, mais qui disent aussi des choses graves. Et puis on terminera avec un livre qui s'appelle « L'anthologie de la poésie haïtienne contemporaine ». Donc c'est un livre sur la poésie contemporaine, donc depuis 1945. Et c'est 73 auteurs et autrices de poésie qui sont regroupés dedans. Auteurs et autrices majeurs. Donc c'est dire le nombre d'écrivains, le nombre de gens qui écrivent à Haïti. C'est Dany Laferrière qui dit que à Haïti, on ne devient pas adulte tant qu'on n'a pas écrit un recueil de poésie. C'est peut-être pour ça qu'il y en a autant qui écrivent. En tout cas, on verra. Enfin voilà, c'est plutôt sous cet angle-là qu'on regardera Haïti pendant les semaines à venir, quoi.
Peut-être qu'on essaiera aussi de suivre un petit peu ce qui se passe là-bas au niveau révolte, même si c'est compliqué de se.
Quand on parlera de Lionel Trouillot et de l'histoire d'Haïti. Je pense que ce serait aussi vachement éclairant d'aller voir comment Haïti a été fondée, donc une révolte d'esclaves qui a réussi. Et je le disais tout à l'heure, et comment on leur a fait payer, en fait.
Oui, c'est ça. Okay. Le retour
et comment on
de manivelle. Quoi.
Comment on continue de leur faire payer, hein, parce que la dette à la France, la dette aux États-Unis, là, il y a un scandale autour du pétrole. Enfin, d'accord pétrolier avec Haïti, ils sont sous domination tout le temps, quoi. Les ONG sont jamais parties, en fait. On laisse pas les Haïtiens gérer leur pays. Les ONG, elles en vivent là-bas à Haïti. Elles ont pas. Enfin, comment elles justifient leur existence si d'un seul coup ça va mieux, quoi. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui, pour Haïti.
Ok, on en reparlera. J'essaierai de suivre un peu. Moi, c'est les images. La plupart des images que j'ai vues, elles venaient du compte Twitter de Zen Wand. Je sais pas comment. Ça s'écrit T-H-1-A-N-1.
Des images de démobilisation là-bas.
Démobilisation à Haïti, ouais. Enfin, mobilisation, c'est l'émeute, hein. Enfin, c'est bien ghetto.
Ouais. Mais justement, on écoutera Lionel Trouillot, il disait ça. Il était très énervé, Lionel Trouillot, il est toujours très énervé et il a bien raison. Et il mâche pas ses mots, enfin, ça fait du bien de l'entendre. Et pour Interception, il disait ça. Je voudrais bien trouver celui qui a trouvé la dénomination pour les manifestants à Hong Kong des manifestants pour la démocratie, pro-démocratie. Et il met ça en lien avec quand on parle d'Haïti, quand on en parle, on dit Haïti c'est le chaos. Il dit nous on est des manifestants pour rien en fait. Et si on est des manifestants pour rien, on a le droit de se faire casser la gueule pour rien. Et que dans le traitement dans la presse, il y a des... On dit pas les choses quoi.
Ouais, ou ce qu'on dira c'est que c'est des opposants au président corrompu.
Ouais, et puis on met toujours même l'Interception, là, il est... Moi, ça m'a gonflé. Enfin, il y a des choses bien dedans, mais il y a des trucs qui m'ont gonflé. C'est que ça insiste tout le temps sur les pillages, sur les petits caïds de quartier, sur... Mais, enfin, les plus gros caïds, en fait, c'est le gouvernement en Haïti.
Ouais, mais de toute façon, ça... Tout ça va se rejoindre hein, avec ce qui se passe ici aussi. Hein. C'est pas... J'ai l'impression que là-bas, ils portent des gilets orange plutôt que des gilets jaunes. Mais si on les laissait exprimer pourquoi, on en arriverait à des trucs qu'on voit ici aussi. En beaucoup plus violent, quoi. Et puis avec une histoire hardcore, mais...
Avec une histoire d'oppression tout le temps.
C'est juste qu'ils aimeraient bien vivre leur vie de manière juste et
ouais, mais c'est ce que,
crever la dalle. Quoi.
C'est ce que Lionel Trouillot dit, en fait. Et les auteurs que j'ai choisis, c'est ce qu'ils disent aussi, en fait, sur ces 10 années.
Voilà, cool, série. Lundi prochain, quoi, genre
Lundi prochain, Yannick Lahens.
Je préparerai peut-être un petit bout d'histoire, alors. Ça me chauffe bien. De quoi on parle après la snob ?
On doit parler de décolonisation. Ah bon ? Ah.
C'est moi qui parle de ça alors ?
Bah c'est nous deux, ouais.
Ouais, parce que t'as pu le voir.
J'ai pas vu en entier. Il y a trois. Donc c'est. On parle d'une série de documentaires. 3 fois 52 minutes, je pense. C'est un documentaire Arte qui s'appelle Décolonisation au pluriel. Putain, je suis vraiment une merde. T'as le nom des co-réalisateurs?
Ouais, j'étais vraiment prêt pour une vraie chronique. Quoi.
Allez, vas-y.
Enfin, vraiment prêt, n'exagérons rien. Mais...
Pas comme au début quoi, de l'émission.
Ouais, donc c'est réalisé. Il y a deux réalisateurs, Karim Misquet et Marc Ball. Donc un peu. Karim Misquet, je pense, doit être un des porteurs principaux, et Marc Ball est plus jeune et a dû filer un coup de main. Enfin, je m'avance peut-être un peu,
ouais,
en tout cas,
bon,
ils sont tous les deux crédités au générique. Et après, l'historien qui est derrière, c'est Pierre Singaravelou. C'est l'historien qui avait coordonné la partie colonisation de l'histoire mondiale de la France de Boucheron, gros daron. Et donc voilà, c'est eux qui ont réalisé, je redis, Karim Misquet, Marc Ball et Pierre Singaravelou. Donc en 3 parties, ça en a déjà dit, 53 minutes. Et donc ça va raconter l'histoire des décolonisations. Alors, c'est raconté via des événements ou des personnages. C'est un parti pris assez concret. Hein, donc ça raconte le monde entier, enfin en tout cas ça se voudrait raconter le monde entier. plein de parcours et ça se centralise autour de certaines révoltes et certains parcours de vie, certaines personnes. Ça commence à la révolte des Sipayes en 1857, donc c'est les supplétifs indiens de l'armée anglaise, l'armée coloniale anglaise, la compagnie des Indes occidentales. Et ça termine en 2013, donc avec un écho contemporain quoi, des décolonisations autour des Mau Mau, qui est un peuple qui a été atrocement mutilé, réprimé dans le cadre de sa lutte pour la décolonisation. Et qui a obtenu une reconnaissance par le gouvernement britannique en 2013 à la Chambre des Lords des souffrances qu'ils avaient eues à subir. Le premier morceau là, des trois morceaux, il s'appelle L'apprentissage. Donc, on va dire l'apprentissage qu'on peut être libre, quoi, qu'on peut être indépendant. Et la dureté quoi, de cet apprentissage. Parce qu'évidemment, quand on essaye d'être libre ou indépendant et qu'on est colonisé, ça se passe pas super bien. Il y a beaucoup d'images d'archives assez peu connues, mais pourtant assez saisissantes quoi, dans les reportages. Alors c'est assez dur hein, sur le site d'Arte. Je ne sais pas si on a dit que c'était sur Arte.
Si, j'ai dit.
Il y a un avertissement au début, il est bienvenu, sans doute pas à regarder avec les enfants, il faudrait qu'ils aient le cœur bien accroché. Mais tu veux peut-être raconter un peu la SNUB, les images.
C'est des images d'archives. Moi j'ai vu que les deux premiers épisodes, donc là tu parles de. C'est dans l'apprentissage.
Ouais.
C'est notamment. Des images de mutilation. Évidemment, pour historiquement, ils expliquent que donc ça tombe pile au moment de la naissance de la photographie, et il y a des gens qui vont prendre des photos, donc qui vont essayer d'alerter le monde occidental sur les exactions qui sont en train d'être commises un peu partout dans le monde, et notamment sur ces mutilations. Il y a aussi Donc ça, c'est pour l'Afrique. Il y a aussi des images absolument atroces. Je ne savais même pas que ça existait. C'est plutôt des images là qui viennent d'Asie. Et donc là, c'est merci l'Empire colonial français. C'est plutôt des images d'Indochine, où en fait, de ces exactions, de ces têtes coupées, de ces mains coupées, de ces pieds coupés, on en faisait des cartes postales qu'on envoyait sur le continent.
Ouais, voilà, des cartes postales de têtes empilées. Quoi.
De têtes empilées, ouais. Et c'est assez abject, en fait, avec des petites couleurs sépia. Vous imaginez des petites cartes postales de bicyclettes ou de petites cartes postales de paysages de montagne. Et bien là, c'est la même chose, mais sauf que c'est des têtes d'hommes qu'on a coupées, qu'on a empilées. C'est des mains de petites filles. C'est vraiment dégueu, quoi. Et ça, donc, c'était envoyé dans les familles pour expliquer que tout se passait bien dans l'Empire colonial et que, sans doute, on avait passé des bonnes fêtes et que, sans doute, on souhaitait des bons anniversaires à la famille restée sur le continent avec ces images-là, quoi. Je savais même pas que ça existait, moi, ça.
Moi non plus.
Non. Lui, on est vraiment tarés. Hein.
Les humains, ouais. Il y a un côté... Il y a un autre parti pris dans ce documentaire qui est de le raconter du côté des colonisés, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, pas du point de vue européen. Et donc, ce que ça dit, peut-être, ce que ça cherche à dire, ça, c'est... Là, c'est pas ce que t'as fait, c'est pas toi qui l'as fait, c'est tu l'as subi. Mais il y a ça dans ton histoire. Il y a des gens de l'autre bout du monde qui, pendant un moment, dirigeaient ce coin-là du monde avec où t'es né, avec un point de fer. Et qui ont fait ça. Et il faut, genre, il faudrait vivre avec eux, enfin, ou leurs descendants maintenant. En tout cas, il faut vivre avec cette histoire-là, et c'est hardcore.
Et dans le parti pris du documentaire, c'est y a un narrateur. Le narrateur, la voix du narrateur, c'est Reda Kateb. Donc c'est un acteur connu. Hein,
acteur cœur.
Ouais, acteur cœur.
Connu, c'est comment meilleur second rôle dans un prophète, Jacques Audiard.
Ouais. Et en fait, il tient un ton qui est absolument génial, en tout cas sur ce que moi j'ai vu, donc les deux premiers épisodes, qui est, du coup, il parle du point de vue des colonisés, du point de vue de ceux qui souffrent, mais avec des petites phrases comme « C'est long un apprentissage, mais une fois que t'as bien appris, tu sais quoi. Et vous là, on vous a regardé faire, on vous a observé, et on a bien appris de ce que vous avez essayé de nous faire, on va bien vous le rendre en fait. » Et il y a ce ton tout le temps qui dit « Ouais, ben en fait, on va vous la faire quand même, quoi. En fait, on va quand même y arriver à vous retourner. » Et il y a des... Donc, ce ton-là, il est vraiment chouette. Évidemment qu'en 3 fois 50 minutes, on ne va pas aller creuser complètement l'histoire de tous les pays, quoi. C'est des zooms portés sur certaines révoltes. Donc, sur notamment en Inde, en Afrique... En Asie aussi, enfin en Indochine, et avec des portraits. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié sur les deux premiers épisodes qu'on a pu voir, c'est que, contrairement à ce qu'on nous apprend dans nos livres d'histoire, à ce qu'on nous apprend mal hein, d'ailleurs, mais quand même, on ne peut pas faire l'impasse sur Ho Chi Minh ou sur Gandhi, là, il y a des portraits de femmes, beaucoup, en Inde, en Afrique... Et c'est assez intéressant, en fait, de voir qu'ils font ce travail d'aller chercher ces femmes qui ont aussi porté les révoltes.
Ouais, bah, de toute façon, ça dit encore un truc de l'histoire du colonisé, parce qu'il y a, par exemple, certains des récits qui sont faits sont des femmes qui ont mené la guerre contre le colon. Qui ont été à la tête d'armée, quoi. Donc typiquement, normalement, des gens qu'on devrait retrouver dans les livres d'histoire. Si ça avait été des mecs, ils seraient dedans. Et que ça a été effacé, quoi. Donc la deuxième partie s'appelle La Libération. Donc ça va... Voilà, hein, c'est en trois parties, ça va assez rapidement. De l'apprentissage, donc, qui raconte plutôt le début et la fin du 19e siècle. Là, on passe assez rapidement au début du 20e siècle. La première partie se terminait sur le parcours de Lamine Senghor, hein, quand il était tirailleur sénégalais, qu'il avait compris, justement, qu'il fallait que les choses changent. Le deuxième épisode, c'est la baston, quoi. Ça raconte les combats de libération, donc pareil, un peu partout dans le monde, à travers certains parcours aussi.
Notamment l'Inde et l'Indochine, et enfin le Vietnam, quoi. On suit beaucoup Ho Chi Minh. Bah, c'est normal, enfin, il suffit de voir ce que c'est Ho Chi Minh au Vietnam pour... on le suit avant qu'il soit Ho Chi Minh, donc c'est... Je me souviens jamais de son nom avant qu'il ait Ho Chi Minh. Nguyen Hoi... Nguyen Hoi Kong, un truc comme ça. Enfin, bref.
Hai Quoc. Je sais pas si je prononce bien non plus.
Et c'est... voilà, donc il y a ces portraits, et effectivement, c'est la guerre, quoi. Il y a aussi... tout un passage, et ça, bizarrement, on nous en parle jamais dans les livres d'histoire. Il y a aussi un long moment sur l'Algérie, où le 8 mai 45, dans les livres d'histoire des Français, le 8 mai 45, c'est la libération, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. On parle jamais du massacre de Sétif, et, qui a eu lieu le 8 mai 45. Là, il y a le portrait de Kateb Yassine, qui devient ensuite un grand écrivain et poète algérien qui va raconter, parce qu'il était, lui, à Sétif, le 8 mai 45, qui va raconter cette histoire. Et voilà, encore une fois, on suit toujours avec le même ton les mouvements de libération et la manière dont, dont les Vietnamiens, les Indiens et les Algériens notamment vont accéder à leur libération, avec cette phrase qui est qui moi enfin qui a résonné beaucoup. C'est, il y a un moment le narrateur dit c'est la liesse, c'est la joie, on s'est libéré, mais avec en creux cette petite pensée que à partir de maintenant toutes les souffrances qu'on inflige, on se les inflige à nous-mêmes. Et ça va juste après ça, ça part sur l'héritage, notamment en Inde, de l'Empire anglais, sur la partition indienne entre l'Inde et le Pakistan, qui va faire 500 000 morts, je crois.
Ouais, ben justement, donc la troisième partie, elle s'appelle « Le monde est à nous » et elle embraye vraiment, vraiment là-dessus. Donc la fin de la deuxième partie, poser la question. La troisième partie s'ouvre par quelque chose d'un peu plus joyeux. Alger, capitale de la révolution, à l'indépendance de l'Algérie. Mais donc on va suivre l'Inde de Gandhi, d'Indira Gandhi, sa guerre avec le Pakistan aussi. Donc le deuxième épisode avait raconté la partition, mais là c'est la guerre qui verra naître le Bangladesh. Ça raconte aussi le Congo de Mobutu dans un chapitre qui s'appelle La Trahison, je crois. Ouais, effectivement, c'est bon, c'est un parti pris. Ça raconte assez rapidement, mais de toute façon, ça fait un tour de tout ce qui a pu se passer. Ça continue avec un bref exemple de ce que c'est aussi d'être descendant de pays descendant de colonisés dans le pays du colon, disons, enfin on dirait immigré aujourd'hui, en tout cas les personnes qui se retrouvent dans les quartiers populaires par exemple. Et ça raconte donc les émeutes de Southall. Et sur un ton plus joyeux aussi, ça raconte le cinéma nigérian, la guerre, une partie de la guerre culturelle, quoi, de la reprise en main justement de cette guerre culturelle, et donc la victoire des survivants, la Mau Mau, victoire juridique qui pousse le gouvernement britannique à reconnaître sa responsabilité. Ça, c'est bien ghetto aussi, hein, ce qu'ils ont subi, là, les Mau Mau. Donc, c'est des survivants, hein, des gens qui étaient tout petits à l'époque de ces répressions et qui ont décidé d'en parler. Ils ont recueilli 6000 témoignages, je crois. Et c'est avec ça qu'ils sont partis, disons, à Londres, rendre gorge au gouvernement britannique. Et bon. C'est des gens, des fois, qui ont 80 ans, quoi, et que ça a suivi toute leur vie. Pas un épisode facile non plus. Voilà, en tout cas, on vous conseille à fond.
C'est hyper. Enfin, c'est super bien fait. Alors, avec les avertissements qu'on a pu dire et que Arte met au départ, il y a des images qui sont vraiment terribles. Mais. C'est fait de manière hyper pédagogique. C'est ce que moi j'ai aimé aussi, c'est que d'un seul coup on se rend compte que les colonisations, c'était bien un mouvement global international, que ça a eu lieu partout et que les soulèvements, que les peuples se sont aussi soulevés partout. Enfin, c'est On nous en parle très peu dans nos cours d'histoire de la décolonisation. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, mais en tout cas, moi, quand j'étais à l'école, on nous en parlait très peu. C'est évidemment que ça ne va pas creuser chaque histoire beaucoup plus, de manière très approfondie, mais c'est un tour d'horizon qui est éclairant. Et ouais, vraiment, ça devrait être utilisé dans les lycées, quoi. C'est super bien fait.
Ouais, ce serait bien. Mais bon, c'est Internet, tout ça, les lycées, tu sais.
Ouais.
Et gros cœur, Areda Kateb, donc qui prête sa voix.
Sa narration, c'est elle est vraiment superbe.
C'est le, comment on dit, en tout cas, Kateb Yassine, c'est son grand-oncle. Mm. Donc il y a vraiment, ça participe aussi du parti pris de qui réalise et qui raconte ce documentaire. C'est pas du point de vue du colon.
Et c'est très beau d'ailleurs, là, c'est le passage où il parle de Kateb Yassine. Au départ, il l'appelle que Yassine. Donc il y a Yassine qui a 16 ans, qui a vécu ça. Et il dit qu'il a réussi à s'enfuir. Et il dit qu'il a réussi à parler, qu'il a réussi à s'approprier la langue du colon, à l'aimer, et que c'est comme ça qu'on devient Kateb Yassine. Et là, le moment où il dit ça, où il dit c'est comme ça que l'on devient Kateb Yassine, c'est tellement fort, quoi. Il y a une telle émotion dans sa voix. Enfin, c'est super beau.
Voilà. Et on a peut-être un dernier petit mot là-dessus. Il y a aussi une super bande-son.
Mmh. Ah ouais.
Pendant les 3 épisodes. Et elle est disponible en playlist YouTube sur la chaîne de Marc Ball. Donc il y a 3 playlists pour chacune des 3 parties. Elles sont bien folles. Je vous les conseille aussi. Il y a de tout.
C'est disponible jusqu'à quand, ça, sur le site ?
Sur Arte, c'est jusqu'en mars. Donc voilà. N'ayez pas peur de qu'il ne soit plus disponible la semaine prochaine. Mais allez le voir quand même. Sinon, vous n'y penserez pas. Et ouais, je pense que ça raconte des choses et c'est plus facile de se comprendre après. Est-ce qu'on refait une pause musicale ?
Ouais, on a quelque chose de prévu.
Bah, évidemment, j'ai géré ça quand même.
Mais bien sûr, tout est géré. Bah, vas-y, pause musicale.
Du coup, bah, j'ai géré, hein, désolé. Ouais. Non, là, d'abord, Kazé, pour enchaîner, on va dire.
Tu mets quoi de Kazé ?
Chez moi.
Ouais.
Et après, c'était juste pour troller un peu les adeptes de la violence non violente. J'avais un epic rap battle of history qu'on entend des fois à l'antenne, Gandhi versus Luther King. Et c'était pour vous dire aussi que les epic rap battles of history, on avait repris saison 4. Donc si vous kiffez, c'est le moment. Voilà. À tout de suite pour l'agenda.
La grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent. Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine. Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs, et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Sais-tu compris avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc et au son des tambours qu'on va aux enterrements? Et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements. Sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
No shoes, no shirt, but I'm still gonna serve ya. Make you swallow your words so you can break the fast. And thank God Almighty you can eat at last. I admire the way you broke the British power, but I have a dream that one day you'll take a shower. Like the H in your name, you ought to remain silent. Flatten your style like bread, non-violent.
You would know about bread, talk a Birmingham sandwich. Boycott those grits, sit in with some spinach. With protestant women, the same advice goes. Always stay away from the hoes.
I've got so much street cred, they write my name on the signs. I'd bring you for tech support, but I got a Nobel Prize. Nigga, we got more beef than one of your sacred cows, but I'm about to forgive you so hard right now.
I am possibly resisting the fact that you suck. I am celibate because I don't give a fuck.
Hey, what? Who's that? You decide! Uh-oh.